y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Et ce n'est pas à un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme ou entre les deux.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros, MC, DJ, B-Boy, que hoy verán como hip hop hay que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la limpieza? Podemos ser raperas, lo que quieras.
Bonsoir, vous êtes bien sur Langue de Fronde. Vous êtes sur FPP 106.3 FM et ce soir, on a une émission sur le corps. Aujourd'hui, en technique, on a Olga et Lucille. Et en studio, on a...
Clarisse, salut.
Chloé.
Théo, salut.
Naïman, passagère fantôme.
Guillemette.
Léa.
Et Delphine.
Et Gab. Donc, c'est une émission sur le corps. Donc, on a choisi un thème assez classique du féminisme, et surtout, on a choisi une occasion, on a choisi ce thème à l'occasion de la naissance d'une nouvelle chronique que vous retrouverez tous les mois dans Langue de Fronde, à savoir une chronique qui s'appelle « J'ai des corps à vous dire » et qui sera le premier document sonore qu'on va écouter. On va écouter trois documents sonores aujourd'hui qui sont très divers, de la chronique au reportage. Trois approches du corps dans l'émission.
Ouais. Et donc moi je vais vous parler un peu plus de la chronique, enfin on va vous en parler avec Léa. C'est une chronique qui réunit à peu près une vingtaine de meufs qui se livrent chaque mois un petit jeu d'écriture ou de réflexion sonore qu'on leur propose avec Léa. Et comme son titre l'indique, donc j'ai des corps à vous dire, c'est pour vous parler de notre corps, de nos corps, pour partager avec les autres du coup notre expérience de ce corps qu'on connaît un peu, pas trop, beaucoup... Enfin, peu importe. Et l'idée, c'est de se rencontrer en se racontant nos corps habités, alliés, ennemis ou inconnus, nos batailles ou nos questions.
Et du coup, pour cette première chronique qu'on va entendre dans quelques minutes, on a voulu faire un petit jeu qui consistait en fait à s'installer dans une partie de son corps et à essayer de voir en fait qu'est-ce qui se trouvait là, essayer de décrire ce qu'on ressentait à cet endroit-là. Et on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais on vous laisse la découvrir maintenant. Bonne écoute.
Marée des fesses.
Ma langue.
Une aisselle.
Un beauté.
Arcade sourcilière.
La cheville.
Ride.
Acné.
Squelette.
La glande de Bartholin.
La glochite.
Le rein foie.
La voûte plantaire.
L'estomac.
Doigt.
Vagin.
Mamelon.
Un cœur.
Menton.
Le plancher pelvien.
Ligament.
Ma langue.
Un poil.
Le muscle bulbo.
Cervelle.
Auriculaire.
Vulve.
Ma voix.
Mon nez. Ma rate.
Mes
mains. Mon foie.
Ma chèvre.
Mon plexus.
Cuir chevelu.
Mes lèvres.
Mes ganglions lymphatiques cervicaux.
Mes
coudes.
Beauté.
Sillon interfessier.
Mes hanches.
Un pouce.
Le sternum.
Sinus.
Mes reins.
Colon, rectum, mon anus
et mon nombril.
J'ai des corps à vous dire.
Chronique sonore pour parler de nos corps avec les autres et pour nous-mêmes.
Si je devais m'installer en moi, ce serait dans ma vessie. Je lui parle déjà souvent, mais elle est bornée. Je m'y installerai confortablement pour lui demander pourquoi. J'essaie de répondre à ses attentes, ses besoins, et pourtant elle se désolidarise à la moindre occasion. En médecine, on appelle ça une miction impérieuse. Et c'est exactement ce qu'elle est, une impératrice.
J'ai parcouru, brièvement, les endroits en moi où je pourrais me trouver. J'ai cherché à aller voir si j'y étais dans ma tête, ma caboche, au fond de ma gorge, sur mon dos, au creux de mes reins, dans mon cul, dans mon cœur ou autour. Et je me suis arrêtée au centre, au ventre. Hier, je l'ai empoisonné aux dalles. Têtu que je suis, que non, rien ne me résiste. J'ai l'estomac solide. Alors aujourd'hui, je viens m'excuser. J'écoute le fond de mon bide. J'entends ces borborygmes comme des plaintes ou le miaulement sourd d'un chat qui geint, ou même d'un enfant dont les sanglots s'apaisent après avoir hurlé tout un après-midi. Je crois que j'ai vomi au moins 5 litres. Et j'imagine comme des bulles qui se crée et éclate au rythme de ma respiration. Il fait chaud et humide là-dedans. Toutes les nuances de rouge s'y retrouvent et de grosses fleurs intestinales y poussent. Elles sentent bon, le musc ou la verveine. Je récupère les derniers morceaux de dalles putrides qui traînent. J'embrasse les parois de mon estomac. Promis, c'est fini, je ne boufferai plus rien de pourri.
Moi, j'ai pas vraiment l'habitude de m'installer dans une partie de mon corps, voire même de m'installer tout court. Alors, j'ai plutôt décidé d'aller me planquer quelque part, un endroit avec un nom bizarre que pas grand monde connaît. J'ai appris son existence il y a quelques années dans un atelier avec un nom aussi assez imprononçable. Feldenkrais. Enfin, un mot qui a du mal à s'installer dans ma bouche, dans mon cerveau, et que mes lèvres mâchent à chaque fois. Bref, me voilà donc posée dans mon plancher pelvien. Oui, oui, certains feront des sourires entendus. Bon, moi je connais son nom et j'ai fait des exercices pour apprendre à le sentir, mais c'est loin d'être mon grand pote. C'est tout un muscle que les meufs ont dans l'entrejambe, de l'anus au vagin, il me semble. C'est celui qui retient nos organes, il paraît. Moi, je l'imagine comme un endroit tout rose et assez vallonné, avec quelques cratères comme des volcans. Je m'allonge dessus et je m'enfonce un peu, comme dans les herbes à Ouessant. Je m'y sens un peu à l'écart de toutes les normes. Personne n'a jamais commenté la taille, la forme ou je ne sais quoi de mon plancher pelvien. Mais au-delà du côté un peu underground du truc, c'est quand même méga confortable comme endroit. Il y a à la fois le confort d'être dans quelque chose de mou, mais aussi celui d'être suspendu comme dans un hamac quand je me lève. Bref, un endroit que je vous recommande.
Alors, ce matin, j'ai décidé de m'installer là. C'est plutôt douillet. C'est chaud, en général. Enfin, ça dépend. En été, ça peut arriver que ça soit glacé. C'est un endroit qui change beaucoup selon ce qui s'est passé les heures d'avant. Et selon avec quoi il rentre en contact. Donc, par exemple, ce matin, c'est plutôt pâteux. Mais pas trop. En fait, c'est assez surprenant parce que ça fait plein de mouvements et on... En fait, je me rends compte que ça fait beaucoup de mouvements que je maîtrise pas vraiment. C'est-à-dire que je... quand je veux émettre un son, ça bouge. Et pourtant, je lui ai pas demandé de bouger, je lui ai demandé d'émettre un son. Et souvent, elle se repose. C'est assez secret comme endroit du corps, finalement. Et pourtant, c'est ce qui nous sert à... Enfin, c'est ce qui me sert beaucoup à communiquer avec les autres. Donc, à aller vers les autres. En fait, c'est plutôt pas mal d'être une langue, je pense. Enfin, ça dépend dans la bouche de qui. Mais bon...
Encore un peu, ça y est, j'arrive, je vois le bout, j'y suis, waouh, quelle vue. Bon, les couleurs aux alentours sont plutôt laiteuses, mais si je tourne sur moi-même, si je cherche un peu plus loin, je peux voir mon menton, mon ventre, le monde tout devant et mes pieds tout en bas. Je suis bien en avant, première face au monde, c'est un peu risqué, hein. J'avoue, j'ai un peu le vertige, tout là-haut perché sur mon téton. Je me cale tout juste entre la pointe et la petite couronne. Petit surnom probablement dû à mon léger chauvinisme de banlieue nord-parisienne. C'est plutôt confortable. Je me demande si je restais quelque temps ici, est-ce que je sentirais le doux, le suggestif, le délicat ou le compressant de mes différents sous-vêtements ? Et puis, est-ce que je sentirais la liberté sous le t-shirt parfois, le frôlement du tissu à des moments inattendus, ou la liberté nue sous la couette aussi de temps à autre, puis la liberté sous ses doigts. Et revenons à nos tétons, enfin à celui-là, le droit, avec le grain de beauté pas trop loin. Ici, c'est sécure, même si dedans ça change, même s'il y a tout le reste qui bouge, qui se transforme, qui grandit, qui se détend, qui grossit, qui se raffermit. Ici, ça reste. Pilier en téton. Je ne sais pas trop ce que j'y entends. Comment ça sonne une peau? Comment elle sonne ma peau, avec tout mon corps dessous? Je suis là, c'était évident, tout devant. Et je pense qu'en fait... je ne m'installe jamais sur mon corps. Il était temps. Quant à s'installer dedans, plus tard peut-être.
Merci beaucoup Léa et Guillemette pour cette première chronique, j'ai des corps à vous dire, version inédite à Langue de Fronde. Et c'était vraiment très très agréable à entendre, alors je ne sais pas pour les auditrices et les auditeurs, mais nous qui étions auditrices en studio, c'était vraiment très beau. Et voilà, il y avait plein de choses dedans très diverses, j'imagine que vous avez dû faire plein de tri aussi parce que vous aviez une matière je crois énorme et que c'est juste un tout petit extrait cette matière.
Comme disait Guillemette tout à l'heure, on était à peu près là, entre, je dirais, 20 et 30 à participer à ce premier jeu. Et du coup, c'était pas facile de faire des choix, de savoir qu'est-ce qu'on gardait à l'intérieur de cette première chronique. Et en même temps, on avait envie de privilégier aussi des histoires en entier et pas forcément prendre des bouts ici et là pour essayer d'entendre tout le monde. Mais c'est des choix qui sont pas forcément simples à faire. Et on aimerait bien transmettre à un moment, je ne sais pas quand est-ce que ce sera ni sous quelle forme, mais l'ensemble des témoignages qui vont être faits dans les prochains mois enfin pour qu'il soit restitué, voilà, je sais pas, sous façon sonore, texte, image, à voir, mais on aimerait bien que tout ce qui est un peu dans l'ombre et ce qu'on n'entend pas ce soir puisse être découvert à un moment. Et qu'est-ce que je voulais raconter d'autre ? Oui, que en fait, on ne sait pas encore quelle forme prendra la prochaine chronique. On a pas mal d'idées de jeux et de on va dire d'imaginaires qu'on a envie d'explorer. Mais voilà, ce sera une chronique qui sera très variable et qui va beaucoup dépendre des personnes qui la font. Et du coup, on voulait remercier tout le monde. Et il y a pas mal de personnes qui sont ici présentes qui ont participé à la chronique. Et c'était trop chouette de vous avoir pour ce premier jeu. Donc voilà, merci beaucoup.
Et moi, ce que j'ai trouvé super et qui est un peu un autre registre que ce qu'on va entendre après, c'est toute la partie imaginaire. Le côté jeu d'écriture qui permet aussi de voyager un peu et qui est, après, on entendra plutôt quelque chose de l'ordre du témoignage et d'un rapport à du vécu. Et là, je trouvais que l'idée de pouvoir s'adresser à son corps comme à son ventre ou alors de parler de son corps comme quelque chose de justement incontrôlable et de aussi... de secret, enfin il y avait quelque chose de très intime et en même temps très qui s'envole quoi. Enfin on part, moi je trouve qu'on a voyagé en vous écoutant.
Bah, la chronique s'appelait Voyage, alors il y a peut-être quelque chose de ça là-dedans.
Ah, elle s'appelait Voyage, ouais. C'est pas mal comme titre après coup.
Et là on va écouter le son qu'on a entendu dans le jingle tout à l'heure, qui est un son de Sophie Unger qui s'appelle Electropolis. À tout à l'heure sur Langue de Fronde.
Shut down of your heart. On est toujours sur FPP 106.3 et c'est toujours Langue de Fronde. Du coup, dans un autre contexte, et pour rebondir sur le fait de se retrouver en non-mixité pour parler de nos corps avec les autres et pour nous-mêmes, on a été rencontrer certaines femmes qui ont créé un groupe de parole dans une maison de quartier à Ivry. Elles nous parlent ici de pourquoi elles se retrouvent pour causer corps et est-ce que ça bouscule dans leur pouvoir par rapport au corps médical.
Moi, je m'appelle Naïké et j'habite Ivry. Et j'encadre la création du livre donc sur la santé, la sexualité et la maternité. Un livre qu'on écrit ensemble avec des femmes qui fréquentent la maison de quartier d'Ivry.
Moi, c'est Aminata. J'habite Ivry. Je fréquente la maison de quartier Ivry-Port depuis un certain temps. Là, on travaille sur un livret qui part sur les corps de la femme sans tabou. On le fait avec Naïké, avec beaucoup de plaisir et voilà.
Moi, c'est Mariam. J'habite Ivry et je fréquente la maison du quartier Ivry-Port. Et actuellement, on est sur un projet d'un livret entre femmes qui parle sans tabou sur le corps des femmes, tout ce qu'on a besoin de savoir et de faire partager à d'autres femmes sur notre corps et... sans qu'il y ait d'ambiguïté et avec plus de facilité.
Bonjour, moi c'est Néné, j'habite Ivry et je fréquente aussi la maison de quartier.
Bonjour, je m'appelle Aya, j'habite à Ivry, je fréquente la maison de quartier. En ce moment, on travaille sur un livret qui parle des corps de femmes sans tabou.
Et du coup, moi c'est Chloé. Du coup, pour commencer, peut-être, est-ce que l'une d'entre vous ou plusieurs d'entre vous pourraient expliquer un peu la naissance de ce groupe, de l'idée de vouloir vous retrouver pour parler de des sujets qui sont évoqués dans vos groupes de parole?
Oui, bien sûr. L'idée est venue parce qu'on avait un projet de parler avec une sage-femme qui intervenait sur la maison de quartier, qui s'appelle Alice. On parlait de la maternité, tout ce qui est maternité, la grossesse et tout, et voilà.
La sexualité,
parce qu'elle est sage-femme et sexologue. Donc l'idée est venue de ça et de créer... Parce qu'avec elle, on se sentait vraiment à l'aise de parler de tout. Mmh. On parlait de nos corps, il n'y avait pas de tabou avec elle. Et là, l'idée est venue de là de faire un livret pour toutes les autres femmes parce qu'avec les professionnels de santé, on n'est pas vraiment à l'aise pour parler de nos corps et entre nous aussi.
Et à la maison du quartier, ça nous permettait d'être hors cadre médical. On avait plus de facilité et on se sentait moins oppressé. Et contrairement au corps soignant, quand on est à l'hôpital, on a moins de temps pour s'occuper de nous. Et c'est de là qu'on a demandé à la maison du quartier d'avoir un temps d'échange par mois, chaque semaine, avec une sage-femme, dans une salle où il n'y a que des jouets des enfants et tout. Donc, on est vraiment à l'aise là-bas. Donc, de là, l'idée est venue qu'on essaye de faire un livret pour parler de notre vécu à d'autres femmes. Nos expériences par rapport à la maternité, par rapport à notre sexualité et par rapport à toutes les forces que la femme peut avoir en elle pour pouvoir supporter son corps. Et c'est pas un tabou pour nous, franchement. Du coup, c'est de là que l'idée est venue d'écrire un livret, parce qu'il y a peut-être certaines femmes qui ont moins de facilité à en parler, mais si c'est dans un livre, ils peuvent peut-être prendre et lire et se sentir concerné et se voir peut-être dans le livre.
Est-ce que vous avez une demande particulière au moment où Alice elle est venue la première fois? Est-ce que vous pouvez parler de ce premier moment où voilà, vous aviez vraiment besoin d'Alice? Qui avait...
Oui, c'était tout.
Oui, c'était une demande. Hein, c'était une demande de toutes les femmes. Oui, on l'a demandé.
Et comment vous l'avez formulé? De quoi vous aviez besoin?
Parce que de base, déjà, on se rencontrait à la maison du quartier par rapport aux enfants. On faisait des ateliers de cuisine,
des activités, des sorties
et des ateliers de couture et tout. Donc, entre femmes, on parlait de nos expériences, peut-être des fois avec nos maris. Des fois de nos expériences d'accouchement et tout, donc on se voyait là-dedans. On se voyait à chaque fois quand quelqu'un disait quelque chose, l'autre disait ah moi aussi j'ai de là. Donc l'idée il est venu de demander à la maison du quartier si on peut avoir un temps d'échange avec une sage-femme qui peut. On avait beaucoup de questions.
En fait c'était surtout pour nous. Voilà, en fait. Au début c'était surtout pour nous par rapport aux questions qu'on se posait.
On n'avait pas de réponse.
Et voilà. Et beaucoup de raconter nos vécus et tout ça, échanger sans en dehors de tout du ce qui est médical en fait. Quoi.
Et voilà, la maison du quartier essaye peut-être de mettre en place un temps d'échange le week-end, c'est-à-dire le samedi, pour que d'autres femmes puissent participer si elles le souhaitent.
Et du coup, dans ces temps, qu'est-ce que vous avez pu apprendre, dire
Eh ben beaucoup, énormément.
On a appris beaucoup de choses.
Moi, personnellement, ça m'a vraiment aidée pour ma deuxième maternité parce que aujourd'hui, j'ai 26 ans et lors de ma première grossesse, j'avais 22. Et j'avais personne, pratiquement, parce que c'est un tabou, il faut le dire chez nous, de parler de sexualité avec les adultes et même d'accouchement ou de femmes avec les adultes, c'était voilà. Et j'avais eu une expérience assez trouble avec le personnel de santé lors de ma première grossesse. Et cette fois-ci, le temps de change il a commencé, j'étais enceinte de 2 mois, donc du coup ça m'a vraiment aidée pendant toute ma grossesse. Et grâce à ça, j'ai pu, on peut dire, accoucher naturellement par voie basse parce que j'ai eu confiance en moi. J'ai eu confiance à la capacité de mon corps. Et voilà, ça m'a vraiment aidée. Il y avait j'avais beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension. Mais ça m'a vraiment aidée par rapport à ma sexualité, par rapport à ma grossesse, par rapport à ma vie en tant que femme. Maintenant, j'ai plus confiance en moi-même.
Parce que ton premier accouchement, ça avait été en césarienne et c'était pas ton souhait.
C'était en césarienne d'urgence. Donc, c'était pas mon souhait. D'un, de deux, je ne t'ai même pas informée pendant toute la grossesse des 9 mois. On m'avait jamais parlé de césarienne, que je pouvais avoir un souci ou un. Voilà, on m'en avait pas du tout parlé. Avec la sage-femme, je n'avais pratiquement rien. Je venais sur moi, elle consultait. J'avais pas mon mot à dire. Enfin, j'avais peur, en quelque sorte, de lui demander. Et elle aussi n'était pas ouverte à me poser, me demander est-ce que vous aviez des questions ou pas. Alors que c'est la même sage-femme qui m'a suivie pendant toute ma grossesse, la première fois. Mais je pense que c'est le manque de temps, peut-être, ou voilà. Mais franchement, j'en avais eu une très mauvaise expérience, mais la deuxième, elle s'est super bien passée, grâce au temps d'échange et grâce à la maison du quartier, et voilà.
Parce que du coup, tu te sentais plus en capacité de négocier avec la sage-femme, enfin, lui poser des questions
Non, pas négocier, mais il faut savoir que moi, pour accoucher, j'avais le col, il s'ouvre. Il s'ouvrait jusqu'à 8. Donc, j'ai besoin d'aide pour m'aider à avancer pour avoir les 10 là qu'il faut pour pouvoir accoucher. Donc, à ce moment-là, j'avais besoin de puiser dans mes ressources personnelles, dans mon corps, pour pouvoir le faire. Il fallait juste me donner plus de temps pour que mon corps il puisse accepter cela. Mais bon, la première grossesse, on ne m'avait pas expliqué cela. On m'avait rien dit, on m'a posé le péridural à midi et j'ai accouché à 23h30. Donc, accouché par césarienne à 23h30. Peut-être si on m'avait peut-être donné la chance d'expérimenter mon corps, j'aurais peut-être accouché autrement. Mais du coup, c'est vraiment la deuxième qui m'a vraiment aidée et grâce au temps d'échange, heureusement qu'il y avait ces temps d'échange-là.
Carotté dans belle paille, grimpe là-haut la montagne comme seule résolution, pas autre dépitation.
Qu'est-ce que vous avez appris d'autre pendant les temps d'échange avec Alice?
Bah, on a appris beaucoup de choses, hein. Déjà, je pense c'était surtout... Moi, c'était surtout par rapport au... Quand tu vas chez le médecin, en fait, quand on va chez un gynécologue, en fait, on a le droit de dire non. Enfin, il y a certaines choses... si on n'est pas à l'aise dedans, oui. En fait, on peut pas faire tout accepter de ce qu'ils disent. Parce que des fois, on a peur de dire non, on a peur que ça gâche quelque chose ou qu'il touche notre corps. Enfin, on a le droit de partir sans payer, tout ça. Moi, personnellement, je ne savais pas ça. Je ne savais pas que je pouvais dire non, en fait. Non, je ne veux pas de ça. Non, je n'ai pas envie de ça. Non, je ne le connais pas, donc je vais apprendre autre chose. Voilà.
Oui, bien sûr. Et grâce au temps d'échange, on a appris beaucoup de choses. On a vraiment appris beaucoup de choses. Déjà, le périnée, moi, on me parlait tout le temps du périnée depuis ma première grossesse. Je ne sais pas c'est quoi. Personne ne m'explique c'est quoi le périnée. Mais grâce à Alice, de la première séance avec Alice, j'avais l'impression que je vois le périnée devant moi.
Mais moi, je ne savais même pas c'était quoi le périnée.
Vraiment, c'est la première chose qui m'a plu dans le temps d'échange. Mm. Elle nous a expliqué, elle a amené des schémas. On a compris sur le périnée. Et voilà, après le périnée, on a compris... les grossesses avec les médecins, comment il faut s'y prendre, oui, je ne vais pas ça, tout le temps les toucher, tout le temps écarter les jambes aux consultes. C'est stressant jusqu'au bout. Mais on pouvait dire non, on ne le savait pas. On ne le savait pas, il y a le médecin qui nous stresse, tu ne peux pas poser tes questions, tu as peur de dire, quand il te dit ça, tu as peur de dire non, le contraire. Tu as peur de dire le contraire au médecin, alors qu'on pouvait le faire. On ne le savait pas, nous, on ne le savait pas. Et après tout ça, avec l'excision que nous, on a subi, voilà, ça aussi, ça change tout. Ça change tout ici, dans ce pays. Ça change tout. On est vu comme pas possible. Comme pas possible. On te regarde, on fait les constats, on te dit, ah! Toi, on est là, on s'est dit, mais c'est quoi? Alors, avant d'arriver ici, on ne savait pas que c'était un problème, hein. Moi, perso, je ne savais pas. Hein. Mais avec les « ah, 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 ah » d'ici, je me suis dit « ah, peut-être c'est quelque chose de grave. » Et on a parlé avec Alice de tout ça. Et voilà, vraiment aujourd'hui, si, c'est grâce à Alice qu'on trouve vraiment les mots de parler de nous-mêmes, de nos corps. Ouais.
Et vous avez aussi parlé, comme tu disais un peu, là, le fait que les médecins, ils ont du mal à l'hôpital à savoir réagir correctement face à des corps, par exemple, à des sexes excisés, oui. Ou même aussi, vous parliez de vos problèmes aussi de racisme.
Ouais, il y a ça, il y a des médecins. Moi, après ma première grossesse, c'est fait en 2012. La première consultation gynéco que j'ai eue, c'était une dame, c'est fait à l'hôpital, c'est à Corentin-Selton, la ligne 12. C'est fait là-bas, la dame, quand elle m'a consultée, Elle a vu que j'étais excisée. Elle dit, oh, t'es excisée. Après, elle part appeler une dame. Tu as déjà vu une femme qui est excisée. Tu as déjà vu un sexe qui a été coupé. Viens voir. Ça m'a choquée.
Ouais. C'est pas gentil.
Il y a tout ça. C'est pas gentil. C'est quand même mon corps. C'est mon corps à moi. Elle n'a pas le droit de le faire. Mais c'est le médecin. Je ne savais pas. Je savais pas comment réagir.
Ouais.
Parce que je me dis, c'est le médecin. Mais si c'est maintenant, si ça se reproduit maintenant, ben c'est la police. Directement, c'est la police. Parce que je vais réagir, après on en parle. Ça va être comme ça. Mais c'est fait, je savais pas comment réagir. J'étais frustrée, j'étais énervée. Mais ouais. J'ai fini ma consulte.
C'est la première grossesse, c'est comme moi, à Robert Debré, pareil, la sage-femme, la première fois qu'elle m'a consultée. Elle m'a consultée directement et elle me dit « Ah, mais vous avez une belle excision, eh bien, on va vous déchirer. » Tout de suite. Donc, j'ai eu peur pendant les 9 mois de grossesse, déjà de la déchirure, et je ne savais même pas. Parce que elle ne m'a jamais parlé de césarienne, elle ne m'a pas expliqué ce que ça faisait la déchirure. Heureusement,
C'est à la deuxième, là, avec le temps d'échange, j'ai su qu'il y avait des, on pouvait te faire des points de suture. Après, quand on te déchire, c'était quoi la déchirure tout, c'est maintenant que j'ai su tout ça.
Nous, quand même, les temps d'échange, ça nous a vraiment rapporté beaucoup de choses. Hein. Et on continue, c'est grâce à cette force qu'elle nous a donnée, on continue sur le livret et on va s'y mettre, on va continuer, on va pas arrêter, on va pas lâcher l'affaire. On va aller jusqu'au bout, même s'il faut former des équipes pour vraiment prendre les micros, descendre dans les rues, parler.
Parler beaucoup aux corps soignants de savoir comment...
On est prête à
parler aux gens et essayer de montrer aux dames qu'elles ont, elles peuvent faire beaucoup de choses sans leur aide même. Leur mettre à l'aise. Déjà, en les voyant d'entrée de jeu, on a peur d'eux. C'est pas fait pour
les médecins.
Des médecins,
on a peur.
En les voyant seulement, on a peur d'eux.
Mais maintenant, moi, j'ai plus peur. Là, maintenant, moi j'ai tombé enceinte, le médecin qui me suit est mort.
Ah oui.
Il n'a pas droit tu à l'erreur. Tu sors de chez toi, tu as une question dans la tête. En arrivant à l'hôpital, tu lis tout. En voyant le médecin, tu mets la pression en tant qu'une femme voilée. Partant à l'hôpital, les soignants, les infirmiers, ils te regardent bizarrement. Soit tu as 3 enfants, c'est la 4e. Ils pensent que nous, on n'a rien à faire que de faire 2 enfants ici. Voilà. Ils nous traitent
comme des objets.
Voilà, c'est ça, quoi. Ils nous mettent mal à l'aise. Mais franchement, c'est avec Alice, choix. On a pris confiance en nous-mêmes. On est capable de leur parler, de leur expliquer. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Nous aussi, on a le droit de nous imposer.
Et maintenant, pour
voilà,
pour
on,
cela,
pourrait, on pourrait beaucoup faire. Voilà, mais
on peut préparer les questions choses. En avance avant d'aller les consulter ou être accompagné par une personne. Donc, si on sait que cette personne est plus apte à réagir face à eux par rapport à nous, si nous, on a un peu peur parce qu'on va à la consulte, c'est pour nous. Et cette personne, comme c'est un tierce, il n'est pas concerné là tout de suite par la consultation, peut réagir à notre place ou préparer les questions en avance. Donc, on est déjà prêt face à lui, on a nos questions qui est déjà écrites. Donc, on lui pose directement. Heureusement qu'il y avait les temps d'échange pour cela, quoi. On en a beaucoup appris.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM, dans l'émission Langue de Fronde. Avant de continuer notre entretien avec ces femmes de la maison de quartier d'Ivry, on va écouter la musique La Maloya du groupe Wati Watia Zore Band, dont sont issues les petites virgules sonores que vous avez écoutées au cours de l'entretien. Ce groupe, c'est la rencontre en fait, entre Rosemary Stanley, qui est la chanteuse de Moriarty, avec Marjolaine Carlin, qui est une chanteuse. Et toutes les deux, elles se concentrent sur un poète et musicien créole de l'île de la Réunion qui s'appelle Alan Peters. Donc les textes sont de lui.
La cosa que tu sais, car au piqueur sans trêve, t'es parti fait campagne, poussé par quel charme. Pas d'autre dépitation, sauter ben dans la compréhension qui était vraiment totale. Dès qu'il dit sa bande la panorama, vautrer si la plage, la Réunion, ou bien dans cité béton, quand il était la morale, à Téhéran. Malgré zot figure, lendemain coup de vent. Thank you.
coup, là, ce dont vous parliez, c'est que vous allez faire un livret. Et ce livret, il est à destination de qui?
Aux femmes, au monde, ouais. À tout le monde. Mmh. S'il y a des hommes qui sont intéressés, qui veulent se connaître le corps de leur femme.
Mmh. Et savoir voilà. Aussi de quoi leurs femmes subir.
Voilà.
Du coup, dans ce livret, c'est vos expériences.
Oui.
Ce sont vos témoignages, en
oui,
fait.
Oui, des expériences vécues, réelles.
Voilà. Sur la santé, sur la grossesse.
Sur la sexualité, sur l'excision, voilà.
Il y a des témoignages, des récits de naissance aussi. Vous racontez vos accouchements. Oui. On a fait des schémas.
Oui.
Et des remèdes aussi, traditionnels sans médicaments.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'on a, on a quoi comme remède? On a Alice, la sage-femme, qui nous avait donné la gousse d'ail qu'il faut mettre dans le vagin si on a une mycose.
Oui. Oui.
Après, on a mis aussi
le ganifi.
C'est quoi?
Le ganifi, c'est comme le clou de girofle, mm-hmm. Mais c'est une autre plante. Différentes, ça permet de soulager les règles douloureuses. Et si on a fait une fausse, enfin tout ce qui est douleur, si on a fait une fausse couche, ça nettoie, ça apaise et ça rend la femme juteuse également quand on boit le jus. Ça nettoie les mycoses, tout ça et voilà, ça change l'odorat du pipi également. Ça le rend plus agréable avec le babi, le gaini. Et le quinqueliba et le canifi.
Et du coup, le fait d'écrire vos témoignages, enfin que vos témoignages soient écrits pour d'autres, ça vous semble important quoi.
Oui, ça me semble très important.
Pour aider d'autres,
si ça peut aider d'autres.
Parce qu'il y a d'autres femmes qui vont être super. Ah, ils parlent de l'air quoi.
Nénette, tu disais quoi?
Oui, en fait, c'est surtout en fait aux femmes de savoir en fait qu'elles peuvent dire non aussi à l'excision. Bah, parce que nous, la plupart toutes celles qui sont là, on est presque toutes excisées. Donc, c'est pour dire aussi que, enfin, tout ce qui est les conséquences, tout ce que ça a apporté de négatif dans notre vie, qu'on ne va pas supporter la même chose pour nos enfants. Voilà, c'est surtout par rapport à l'excision et par rapport à la santé. En fait, c'est vraiment pour pousser aux femmes de plus s'ouvrir et d'enlever les barrières, d'accepter son corps.
Parce que la féminité, c'est pas un tabou, quoi. On nous fait comprendre que oui, la féminité, c'est un tabou. Enfin, il faut... Ça ne doit pas être quelque chose de public ou voilà, ça doit être toujours caché. Non, loin
de
là.
Par rapport à nos parents, parce que nous, on n'a pas eu la chance en fait d'en parler à nos mamans, de nous dire voilà, par exemple, les règles douloureuses et tout.
On s'est fait nos propres expériences.
Voilà. On en parle entre copines, c'est grâce à ça qu'on a appris plein de choses.
Entre tata,
jamais, on va jamais nous dire oui. Tu vas accoucher, il y a tel risque, tu vas avoir tes règles à tel âge, les premiers rapports, quand tu te maries. En fait, c'est d'un coup, quand tu te maries, on te dit tout d'un coup. C'est comme ça, genou.
On te le dit même pas. Donc, du coup, tu tombes juste dedans. Allez, vas-y, c'est prends ça. Et tu vas supporter. Maintenant, ça va grâce au temps d'échange.
Et de parler de tous ces sujets pas faciles, le périnée, le placenta, le clitoris.
Oui,
vous, au début, vous trouviez ça, c'était un peu gênant, c'était
oui,
pas votre réaction?
Au début, on parlait pas, hein. Au début, il y avait...
Non, pas... c'est vraiment difficile, hein, c'est un peu, même si c'est un peu...
Surtout à quelqu'un que tu connais pas, surtout entre nous, de dire...
Du coup, au début, vous étiez...
Mais avec Alice... Tout d'un coup, Alice s'est mise comme ça, elle a mis comme ça, on a dit, c'est bon. Là, on peut tout dire. C'est là, c'est vraiment Alice, c'est elle qui nous a donné vraiment la force, que le corps, c'est ton corps. C'est comme les pieds, le sexe, c'est comme ton pied, c'est comme ta tête. Ça fait partie de ton corps, tu peux parler de ton sexe comme tu parles de ta tête. En fait, même l'excision, moi, on me dit tout le temps, j'ai dit, mais est-ce que c'est de ma faute? C'est ça, je leur réponds. Je dis, mais est-ce que c'est de ma faute? Si je pouvais m'imposer, j'allais le faire depuis. Mais déjà, c'est fait, ça veut dire que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, on m'a pas demandé. On l'a fait comme ça parce que ça se fait. C'est tout. La personne qui m'a fait, elle sait pas pourquoi elle fait. Parce qu'elle, elle a subi.
Elle fait subir à d'autres.
Et ça doit être fait. Ouais, c'est tout.
Même quand on subit l'épisiotomie,
voilà.
Au moment de la couche, c'est pareil, on n'a pas choisi.
On n'a pas choisi. On l'a subi, voilà, c'est tout. Mais qui disent, oh, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as envie de réparer? Est-ce que ça te dérange dans le couple? Moi, je ne veux pas ces questions parce que je me dis, mais je ne connais pas l'autre. Si je connaissais les deux cas, j'allais vous dire quand même. Mais je ne connais pas ce qui n'a pas été coupé. Ce qui a été coupé, je le connais, c'est moi. Mais le 7 qui n'a pas été coupé, je ne le connais pas. Je ne peux pas faire la comparaison entre les deux. Mais si je pouvais, j'allais faire la comparaison. Avoir le 16 qui n'a pas été coupé, le 16 qui a été coupé, mais malheureusement, j'ai celui qui a été coupé. Et voilà, c'est mon corps, je l'accepte. J'ai subi, voilà.
Le titre de votre livret, c'est
Sans tabou.
Et pour vous, chacune, là, d'entre vous, c'était quel tabou le plus... votre tabou que vous avez réussi à dépasser, le tabou le plus gros que vous avez réussi à dépasser?
Pour moi, c'est l'excision.
Ouais.
Pour moi,
c'est ça.
Ouais, c'est bah ça. Oui, moi aussi.
L'excision, mon passage sur la gynécologue là-bas. Mmh. J'avais pas raconté à qui que ce soit. C'était la première fois. Et vraiment, c'était vraiment un tabou. J'avais gardé pour moi seul. Et là, vraiment, c'est... Je n'en parle comme si... Ça m'a soulagée, en fait. Ça m'a soulagée. Le sexe entier, c'est un tabou, hein. C'est tout le sexe de la femme.
Moi, c'est vraiment plusieurs
tabous. Pour les hommes, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas pour les hommes, mais pour les femmes, ça fait quelque chose quand même.
Moi, le tabou, c'est que j'avais honte du fait que ma première grossesse, la façon dont je l'avais vécue, je culpabilisais, je me disais, mais... comment ça a pu se passer comme ça sans que moi-même je ne réagisse alors que c'était pas de ma faute. Et le deuxième tabou, c'est que sexuellement j'avais un blocus, je bloquais vraiment parce que je disais seulement le sexe ça va me faire mal. Donc grâce à Alice, elle m'a dit déjà au fait le blocus il vient souvent de la tête. Si tu te dis quelque chose ça va te faire mal, et ben quand ça arrive ça va te faire mal tout de suite. Donc mentalement maintenant je me prépare à cela. Et du coup, mon corps, il accueille plus facilement. Ça, c'était mon deuxième tabou. Parce que ça me faisait tout le temps mal. Mon conjoint, il me disait tout le temps, j'ai envie de percer le mur pour partir. Tellement que je fuyais tout le temps. Mais maintenant, avant de passer à l'acte, je me prépare mentalement. Et ça permet à mon corps de s'ouvrir. Et ça me fait pratiquement plus mal. Ça, c'était un tabou vraiment pour moi pendant 4 ans. Ça, je l'ai subi pendant 4 ans du commune. J'avais du mal pour cela.
Et voilà, il faut ajouter aussi que les femmes, que l'excision, ça ne peut pas enlever tout le plaisir sexuel aussi.
Ouais.
Ça ne peut pas. Ça ne peut pas enlever. Parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui pensent qu'on a été excisé. Voilà, on n'a plus de plaisir. C'est dans la tête. Quand c'est dans la tête, les femmes les refusent. Moi, j'ai été excisée, mais quand je veux, j'ai le plaisir. Moi, quand je veux. Mais quand je ne veux pas... Je ne veux pas. C'est, même si je ne connais pas le côté qui n'a pas été coupé, je sais que c'est pareil. Quand on veut, on a le plaisir. Quand on ne veut pas, on ne veut pas.
Ben chouette, on a écouté quand même un reportage. Ben merci beaucoup Chloé pour ce reportage parce que c'était vraiment des paroles je trouve très intéressantes. Moi ce que j'ai bien aimé en fait c'est que ça montrait un petit peu comment le corps de chacun à la fois c'est un terrain d'expérimentation et puis une expérimentation dans laquelle on n'a pas forcément les mots pour le dire, les moments pour la mettre en forme, les rencontres qui permettent d'en faire quelque chose de partageable et que quelque part ce groupe, c'est ce qu'elles sont en train de faire. Ça m'a pas mal intéressée aussi parce que quelque part, ça m'a rappelé un peu que dans les années 70, le féminisme était très très centré sur l'expérience des femmes et en particulier l'expérience de leur propre corps. Et puis ensuite, on est un peu passé à d'autres thèmes politiques comme si, quelque part, c'était quelque chose qui était acquis. Et à travers ce reportage, je trouve qu'on voit bien que s'approprier son corps, c'est une tâche qui est à recommencer pour chacune, pour chaque génération de femmes, pour chaque groupe, chaque communauté. Et aussi que le rapport à notre corps, ce n'est pas un rapport simple, immédiat, évident, que quelque part, ça passe par les rencontres qu'on fait, par le politique, par des savoirs, par des expériences, la manière dont on les partage. Et oui, qu'en fait, s'approprier son corps, c'est jamais gagné, c'est toujours à reprendre et que c'est une tâche pour chacun, comme un peu tous les processus d'émancipation. Et ben maintenant, en fait, on va passer à la suite. On va écouter la chronique d'Olga.
Wouhou! mon corps, mais qu'est-ce que c'est qu'au juste cette espèce de truc que j'appelle mon corps? Ce n'est pas mon corps, c'est un nous, un collectif transespèce, une multitude. Du moins, c'est comme ça que j'aime à me le raconter. Pour moi, il n'y a pas un corps bien tracé, bien délimité. Il n'y a pas un moi, un individu, mais plutôt une bande, une meute, un collectif. Dans les années 70, la biologiste Lynn Margulis réhabilite les études sur les symbioses, ces associations physiques durables au cours de la vie de deux organismes qui en tirent un bénéfice mutuel. Elle propose la théorie endosymbiotique. Les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules à noyaux, nos cellules donc entre autres, seraient le fruit d'une vieille rencontre symbiotique entre bactéries. Son papier, refusé par nombre de revues de renom, parce qu'elle est une femme qui ose faire de la science et ose également remettre en cause le paradigme dominant de la guerre des espèces, ouvre la voie aux études sur les symbioses qui existaient mais à la marge depuis le 19e siècle. Depuis lors, on a appris que les symbioses sont un phénomène ubiquitaire et normal dans la nature. En effet, tous les êtres vivants sont engagés dans des relations symbiotiques, y compris les humaines, dont le corps contient au moins 10 fois plus de bactéries symbiotiques que de cellules dites « propres », et je mets donc des guillemets à « propres ». Et en d'autres termes, 90% des cellules de notre, et je mets encore des guillemets « corps », sont bactériennes. De plus, les relations symbiotiques ont souvent un rôle fonctionnel, parfois vital pour les organismes qu'elles constituent, comme c'est le cas par exemple pour la relation entre les humaines et leurs bactéries intestinales, qui sont nécessaires à notre digestion, induisent l'expression de certains gènes et assurent également des fonctions immunitaires. Certains et certaines biologistes n'hésitent donc plus à affirmer que nous n'avons jamais été des individus. Nous sommes des chimères biologiques et ce que nous appelons improprement notre corps est un agrégat de relations entre différentes espèces, la scène d'échanges latéraux de gènes et autres matières en tous sens. Et ça, my friend, c'est une fucking bonne nouvelle pour contrer les discours des racks qui voudraient nous assigner à des corps immuables. Mais réveillez-vous les gens, on est juste le résultat de délires bactériens ancestraux. On est un bésodrome à bactéries en fait. It's a fucking mess et il y a du monde là-dedans, ça c'est moi qui vous le dis. Ou comme le dit plus proprement Lynn Margulis, de la paramécie à la race humaine, toutes les formes de vie sont des agrégats méticuleusement organisés et élaborés de formes de vie microbiennes en évolution. Nous sommes littéralement constitués dans notre chair par des infections transespèces. Il n'y a donc rien d'évident de donné dans nos corps qui sont le fruit de rencontres dont on ne pouvait prévoir l'issue à l'avance. Des corps qui changent et se transforment au rythme du ballet anarchique que mènent les multiples acteurs qui le composent. Ainsi, dans une perspective régénérative des corps, je préfère me penser comme un collectif d'espèces compagnes que comme une figure humanoïde bien délimitée. Et comme la philosophe Donna Haraway, je cherche mes frères et mes sœurs dans les formes fongiques non arborescentes et latéralement communicantes de la famille queer. Voilà.
Merci.
C'était une performance, en fait, Olga, que tu nous as fait là.
Je vous ai dit chronique chelou, vous aviez qu'à pas accepter après. Hein.
Tes bactéries ont bien rougi.
Oui, mes bactéries sont contentes. Elles s'agitent dans tous les sens. C'est un très bon moment avec vous.
Merci Olga pour cette chronique. Alors, pour faire le lien, on a aussi plein de bactéries dans notre vagin. Toute une flore qui est hyper importante et notamment un peu comme elle... Après, ça allait un petit peu avec toutes les aides qu'elle disait les femmes quand elle parlait un petit peu des techniques qu'il y avait. Donc, Gab nous a dit qu'on pouvait utiliser l'ail, mais il fallait faire attention.
Avec parcimonie.
Avec parcimonie. Mais
peut-être pas forcément dans le vagin.
Mais, ouais. Mais c'est vrai que les antibiotiques, c'est vrai que ça tue toute cette flore. Enfin, en même temps, ça détruit la mycose quand on a des mycoses. Mais ça détruit aussi toute la flore qui est hyper importante et qui fait qu'après, on a des mycoses en série. Et voilà. Donc, c'est heureusement qu'elles sont là, nos bactéries, pour nous protéger.
Dans les trucs bizarres qu'on a appris juste avant l'émission, on a appris aussi que si on mangeait beaucoup de risotto, ça faisait gonfler les seins, apparemment. Je ne sais pas si le fantôme ici présent veut nous dire deux mots, mais apparemment, ça fait remonter un truc gastrique, et puis à la fin, il y a un truc qui gonfle comme ça. Voilà, bon, c'est peut-être des bactéries, j'en sais rien, tout ça, c'est les biologistes qui doivent le dire.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. C'était Lucille qui nous proposait la dernière musique de Nina Simone. I got life. On y va?
À la prochaine.
À la prochaine.
Ciao.
Bonne soirée.
Ciao.